Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Un plaisir de vous retrouver et j'ai l'impression qu'on est à quelques jours d'avoir un plaisir de se retrouver puisqu'on l'a vu au fil des dernières semaines, mais c'était entre autres le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui reprenait ses activités après une longue pause autour de la COVID. C'est le cas de certains salons du livre, Trois-Rivières, je pense, la fin de semaine dernière, et ben, dans quelques temps, dans quelques jours, en fait, donc à partir du 6 avril prochain, eh ben, ce sera le 35e Festival Québec BD qui va également reprendre ses activités après deux années de pause qui l'ont mené plus vers le virtuel. Alors là, on va se retrouver en présence autour d'expositions, autour d'activités, de rencontres d'auteurs, de spectacles, de démonstrations, de lancements. Un retour, je dirais pas un retour à l'ordinaire, mais un retour qui va tendre à se rapprocher le plus possible de l'ordinaire. Et bien, pour parler de cette 35e édition qui, je le rappelle, aura lieu du 6 au 10 avril, et bien, on va passer l'émission en compagnie du directeur général et programmateur de l'événement, Thomas-Louis Côté. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'imagine, en fait, de ton côté, donc après quoi, deux ans d'événements et d'éditions virtuelles, ça doit être particulièrement plaisant, mais en même temps, j'imagine aussi avec un degré de stress additionnel de se retrouver comme ça en présence là, dans quelques jours.
Ah ben, il y a une grande frébrilité de voir tout ça arriver. C'est sûr que l'annulation de 2020, l'édition virtuelle l'an dernier, ça a été des façons complètement différentes d'aborder l'événement. Puis là, de pouvoir le faire en présentiel, comme tu me dis, je pense que ça se rapproche plus de ce qu'on était avant. C'est très motivant. Puis en même temps, il y a certaines angoisses et tout par rapport à ça. Mais c'est... C'est vraiment le fun. Puis de pouvoir retrouver les gens, que ce soit le public ou les auteurs, après tant de temps, ça va être très agréable. Il y a plusieurs auteurs avec qui je communique depuis presque deux ans maintenant que je n'ai jamais rencontré en personne. Donc, ce sera l'occasion de le faire. Puis je trouve ça très, très, très plaisant.
Oui, en fait, tu parles de frénésie. En fait, tu reviens d'Angoulême, tu étais là à la mi-mars. Et il va y avoir quelque chose, c'est les premières comme grandes retrouvailles du milieu BD international. Et j'imagine que tu t'attends aussi à avoir une ambiance, une dynamique assez similaire aussi avec Québec, qui est le premier gros rendez-vous, le premier gros retour, le nonobstant peut-être des éditions plus réduites du Festival de Montréal, des rendez-vous BD de Gatineau, mais c'est le premier gros, si tu me permets mon latin, le premier gros « get together ».
Oui, bien effectivement, puis je pense que les gens ont hâte, tu sais, je le vois avec les exposants puis les auteurs avec qui on collabore là, pour les différentes animations, ateliers et tout, puis les gens ont vraiment hâte d'être présents, de se voir, puis d'échanger, fait que c'est, pour ça, je suis très heureux de le faire. Effectivement, tu parlais d'Angoulême, ça a été, pas un choc, mais d'arriver après tant de temps à travailler seul dans son sous-sol ou un peu au bureau, puis de faire des choses... à gauche puis à droite, de débarquer puis d'arriver dans un événement où tout à coup, tu retrouves... Et là-bas, en France, on retrouvait vraiment la normalité. Là. C'était pas de masque, pas de contraintes nécessairement. Donc, c'était assez confrontant. Fait que j'ai bien hâte de voir rendu à Québec. C'est sûr qu'on va conserver le masque à Québec au Salon du livre, mais je pense que les gens vont être très enthousiastes de se voir, puis ça va paraître dans les rencontres que les gens pourront faire avec les auteurs. Là.
Et on disait tantôt, c'est un retour qu'on va tendre à la normale. Évidemment, on n'est pas encore entièrement dans la normale. Comment un peu cette dynamique-là? Parce que donc ça fait deux ans que tu programmes en virtuel. Dans le fond, l'édition un peu de récupération de 2020, parce que tu as quand même offert une programmation. L'équipe du festival s'est retournée sur un dizaine littéralement. 2021 était vraiment planifié en virtuel. Et là, subitement, après deux années de, entre guillemets, se réinventer, pour reprendre le terme qui fut à la mode à l'époque, comment on oriente, comment on développe, comment on aborde, dans le fond, la programmation de 2022? Là, ça fait quand même plusieurs mois que vous êtes là-dessus aussi, presque un an.
Oui, bien, ça reste une édition atypique dans sa préparation. C'est certain que... il n'y avait pas la volonté de retourner vers un événement numérique. Je pense que si on avait eu à le faire par des contraintes X ou Y, là, on l'aurait fait différemment cette année. Je pense que l'événement se serait transformé pour être quelque chose qui reste en présentiel, mais qui serait peut-être ailleurs dans le temps ou dans une forme assurément différente. Là, on a quand même eu la confirmation très tardivement que l'événement allait revenir en présentiel. Tu sais, puis juste pour mettre en image ça, parce que tu sais, très tardivement, si je parle de mi-janvier, ça nous laisse quand même beaucoup de temps. Mais habituellement, un événement comme ça, on le prépare tranquillement à partir de septembre, octobre, pour arriver en janvier, puis être vraiment très avancé, puis finaliser la programmation fin janvier. Actuellement, on avait fait quelques démarches avant 2022, mais sans nécessairement savoir si on allait pouvoir revenir en présentiel. Puis avec la montée des cas de COVID qu'il y a eu en décembre, ça avait rajouté au mystère de la chose. Mais quand on a eu la confirmation vers la mi-janvier que l'événement allait pouvoir se mettre en place, c'est là qu'on a vraiment pris les bouchées doubles, si on veut, pour pouvoir faire l'événement qu'on fait cette année. Donc, c'est une édition qui est un peu plus légère qu'une édition régulière, mais je pense que c'était une prudence qui était de mise par rapport à la situation qu'on a actuellement, parce qu'il y a quand même un petit regain là, de cas, là. Donc, au moins avec une édition qui va être sensiblement dans les mêmes veines de ce qu'on fait habituellement, mais quand même plus légère. Ce n'est pas une 35e édition qui est grandiose dans une programmation où mur à mur, il y a plein de choix. On a fait des choix artistiques pour avoir une très belle programmation, mais un peu plus légère.
Un peu plus légère, mais en même temps, ton grandiose dépend du point de comparaison. Si on compare avec le 30e, avec le 32e, mais si on compare avec l'an dernier, puis il y a 2 ans, j'ai l'impression que juste le fait de pouvoir
on
se
est
retrouver, de
à
pouvoir voir
milieu
les
de ce
auteurs,
qu'on a fait, toi.
voir de l'impro BD, quelque chose, ça devient en soi grandiose.
Ah non, c'est certain, puis je pense qu'on va savourer d'autant plus chaque moment de l'événement et les activités qui sont proposées parce que c'est comme on redécouvre notre festival, puis on va le redécouvrir avec le public, là.
Et peut-être parlons du festival d'entrée de jeu. Je pense que le festival, c'est beaucoup pour beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, c'est les auteurs, c'est les personnes qui sont de passage, c'est les personnes qu'on aura l'occasion de rencontrer. Et on aurait pu avoir l'impression, avec les contraintes sanitaires, qu'il y aurait un enjeu particulier, évidemment, pour les venues de délégation. J'imagine que ça a rendu plus difficile aussi la venue d'auteurs étrangers, mais en même temps, quand on regarde la programmation 2022, il y a quand même une belle présence d'auteurs internationaux, là, tout compte fait, encore là, en gardant dans l'idée qu'on est dans un contexte sanitaire toujours particulier.
Toujours particulier, effectivement. Mais on a eu la chance de faire des démarches pour avoir certains auteurs. Encore là, comme je le mentionnais plus tôt, habituellement à la fin janvier, tout ce qui est auteurs internationaux et tout ça, c'est bouclé. Alors que là, ça n'a pas été le cas. Et je dirais aussi qu'un événement comme le Festival d'Angoulême, qui habituellement à la fin janvier, permet les derniers contacts, les dernières approches pour la venue d'auteurs. Donc, comme il n'y a pas eu d'Angoulême cette année, ça a été plus compliqué et on a vu dans tout ça aussi les délégations étrangères qui nous appuient habituellement pour la venue d'auteurs ont été réticents au départ à donner des réponses rapides, ne sachant pas vers quoi ça s'enlignait. Donc, encore là, on a eu un défi à ce niveau-là pour avoir des auteurs internationaux, mais on a fait le choix aussi de ne pas nécessairement miser beaucoup sur ce volet-là. Donc, on est très heureux d'avoir des auteurs comme Juan Diaz-Canales, qui est le scénariste de Black Sad, entre autres, parce qu'il a fait des albums pour lui. Teresa Valero, qui est une autre auteure espagnole, qui a fait de très beaux albums, dont Gentlemind avec Canales. On a aussi Zelba, qui est une auteure d'origine allemande qui réside en France maintenant, mais qui a fait des très beaux albums chez Futuropolis. Et aussi, bien, une des particularités, c'est qu'on accueille habituellement des auteurs en résidence. Puis ça, cette année, on a pu le faire. Donc, ça permet d'avoir Nausicaa Gournay, qui est une auteure belge. Il y aura aussi 3 auteurs qui viennent en résidence à la Maison de la littérature pour un projet. Donc, Jimmy Beaulieu et une auteure française, une auteure espagnole. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir une présence internationale cette année. Mais c'est ça, on n'a pas voulu miser là-dessus. On préférait donner l'occasion de mettre de l'avant plus. Puis je pense que c'est le mandat de Québec BD, de toute façon, de mettre la bande dessinée québécoise de l'avant en priorité. Donc, cette année, bien, on a vraiment misé sur les auteurs québécois présents.
Oui, puis ça reste un choix. Enfin, on parlait de choix artistique et ça justifie, dans le fond, il y a une présence internationale parce que c'est l'habitude de Québec BD de favoriser ça dans les contraintes du raisonnable. Mais si on se retrouve avec un événement où on dit que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'il n'y a pas eu de remise de prix en direct, qu'il ne s'est rien passé en direct, ben, juste le fait de pouvoir rassembler une partie de l'écosystème BD québécois, en soi, c'est déjà un grand pas qui est accompli.
Ah, oh, absolument. Puis il faut quand même garder en tête qu'il y a plusieurs auteurs qui ont sorti des albums au cours des 2 dernières années, dont ce sera à peu près le premier événement pour mettre pour promouvoir leurs livres. Des auteurs qui ont sorti des albums en 2020, entre autres, qui ont jamais connu de salon du livre. Peut-être à part celui de Trois-Rivières, s'ils sont allés la semaine dernière, là, mais je trouve que c'est important de donner la chance aux gens. Puis on a travaillé avec les éditeurs, que ce soit Pawpaw, Mécanique Générale, la Pastèque ou autre, là, pour s'assurer de la présence d'auteurs à Québec.
Et selon toi, en fait, comme organisateur justement d'événements, quelle est l'importance que tu perçois dans cette rencontre-là, dans la possibilité justement des auteurs, après un lancement d'album, de pouvoir rencontrer le public dans des contextes de dédicace, dans des contextes de rencontres d'auteurs ou juste d'échanges informels?
Ben, c'est l'échange avec le public qui est intéressant pour ces auteurs-là. Parce que, n'étant pas auteur moi-même, je ne pourrais pas te dire l'effet émotionnel que ça peut faire de rencontrer finalement son public. Mais c'est certain que pour avoir un retour de ses lecteurs, au-delà des commentaires que tu peux lire en ligne ou des commentaires que les gens peuvent mettre sur des sites de libraires par rapport à ça, bien, tu rencontres un public de gens intéressés à ton œuvre, qui en discutent, qui vont l'avoir analysé différemment. Fait que ça amène des discussions qui sont beaucoup plus intéressantes, je pense, que d'un simple commentaire qui dit « J'ai beaucoup aimé le livre 5 étoiles ». Donc, dans ce cas-là, c'est un échange vraiment particulier avec le lecteur. Puis, ces occasions-là, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu des... Entre les vagues, certains lancements, certaines activités, mais dans le cadre d'un événement de l'ampleur du festival puis du Salon du Livre pour l'accueil des auteurs, bien ça, ça a été très rare, là.
On parle à peu près de combien d'auteurs cette année, combien d'auteurs autrices?
On est à 100 d'auteurs présents. Donc, habituellement, on a peut-être 130 auteurs environ, ça dépend. T'sais, une vingtaine d'auteurs internationaux là-dedans. Donc, cette année, on est plus à 5 auteurs internationaux, plus à peu près 95 auteurs québécois. Donc, c'est très varié, là.
C'est très varié. Puis comme tu dis, c'est qu'il y a des titres incontournables qui sont arrivés sur les étaux des libraires dans les dernières années. Donc, tu as un rattrapage aussi de 2 ans que tu peux faire. Et donc, ce qui fait que comme programmateur de l'événement, ben, tu peux aller chercher quand même une belle variété d'auteurs qui vont s'adresser à une belle variété de publics, associés à une belle variété d'éditeurs
Oui.
aussi. Donc, c'est. Je regardais l'échantillonnage, ça me semblait quand même assez varié et représentatif aussi de la richesse de l'écosystème québécois.
Oui, puis il faut quand même comprendre que les auteurs sont actifs. Il y a beaucoup d'auteurs qui sortent un livre par année maintenant. Donc, il y a des auteurs qui ont sorti 2 livres depuis 2020 et qui n'ont pas pu mettre de l'avant. Donc, pour nous, c'est sûr que ça donnait un bassin de candidats quand même intéressant. Puis ça a permis de. T'sais, je regarde dans la programmation, il y a des éléments qui devaient être présentés en 2020 qu'on peut finalement présenter au niveau des expositions. Il y a des auteurs qu'on voulait recevoir en entrevue, qu'on a parfois reçus même l'an dernier dans Par la bande, l'initiative qu'on avait faite, mais que là, on peut les faire des rencontres d'auteurs avec eux au Salon du Livre. Donc, c'est intéressant pour nous, là.
Oui, mais en fait, c'est qu'on revient, puis j'ai l'impression que ça va être la thématique un peu à tous les éléments qu'on va aborder sur le festival, c'est la reprise du contact, la reprise de la présence. Et on se retrouve avec la dynamique, mais en même temps, j'ai l'impression que les 2 années vont aussi avoir teinté peut-être la manière dont on fait les choses. C'est des entrevues, on en a beaucoup faites en virtuel, on a offert des nouveaux concepts. Donc, on retrouve un peu les anciens concepts, mais teinté, j'imagine, aussi de l'expérience qu'on a eue ces 2 dernières années, d'offrir du virtuel, puis des manières d'aborder les choses, de les présenter. Donc, il y a des nouvelles idées qui émergent au bout du compte à
C'est un
travers ça.
peu, tu sais, je regarde la série, par exemple, les grands entretiens qu'on va faire. Donc, 4 grandes rencontres à la Maison de la littérature puis au Musée national des beaux-arts. Ça vient un peu de cette volonté-là de s'attarder à des sujets plutôt que de faire vraiment des courtes rencontres au Salon du Livre, ce qu'on fait toujours, ce qui est pertinent à faire, je crois, mais de prendre le temps pour discuter avec certaines personnes plus en profondeur de leur ouvrage, de leur parcours. Je pense que ça, on a senti le besoin de faire ça suite aux expériences de l'an dernier où, par exemple, avec Par la bande, on recevait un auteur pendant presque 1 heure avec des auteurs invités et tout pour discuter d'un sujet. Et ça a amené des discussions intéressantes et différentes. Donc, de le faire là, mais autour de certains auteurs, de certains livres, ça va permettre de tester ce concept-là. On a quand même été chanceux. Tu sais, on fait quatre grands entretiens cette année. Avec Michel Rabagliati et Michel Giguère pour les entretiens. Donc, le livre qui est sorti, qui analyse justement l'œuvre de Rabagliati. On fait aussi une rencontre avec Julie Doucet, ce qui est pour moi un grand plaisir parce que depuis que je suis au festival, c'est la première fois qu'elle vient à l'occasion de la sortie de Maxiplot. Et ce sera vraiment une belle occasion. Puis ça ne pourrait pas mieux tomber qu'en plus, elle a gagné le Grand Prix d'Angoulême. Pour un public qui veut la découvrir, ce type d'entretien-là va être parfait. Puis on fait aussi une rencontre autour du livre de René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme. Donc, un ouvrage qui a marqué, je pense, la fin de l'année 2021 dès sa sortie. Puis au Musée des Beaux-Arts, on fait une rencontre aussi autour d'un Paris pour Dallaire qui est sorti à la Pastèque. Donc, ce sera une belle occasion dans un lieu qui accueille même des œuvres de Dallaire de discuter de cet album-là.
Oui, parlons un peu justement de ces idées de grands entretiens-là. Un pari pour Dallaire, donc l'idée de l'amener au Musée des Beaux-Arts. Dans le fond, c'est une BD sur l'histoire de l'art. Puis, dans le fond, là, on peut l'amener dans un lieu qui porte cette histoire de l'art-là. J'imagine que ça donne aussi une dynamique particulière. Je veux dire, on n'aura pas la même rencontre, le même esprit de rencontre si on avait fait cette rencontre-là, par exemple, dans l'espace Québec BD du Salon du Livre.
Ah,
Parce
ça,
que là,
c'est
on se
certain.
retrouve pratiquement in situ là, autour de ces collections-là.
Ça, c'est certain que les gens vont pouvoir aller voir des œuvres de Dallaire après la rencontre, ce qui est génial. Mais il y a aussi, puis je pense que ça caractérise un peu les initiatives de Québec BD à chaque année, c'est qu'on essaie de trouver des lieux pour aller chercher d'autres publics. Donc, en allant au Musée des Beaux-Arts, oui, il va y avoir l'amateur de BD qui va pouvoir y aller. Mais les gens qui sont amateurs de l'œuvre de Dallaire, qui sont des amis du musée des Beaux-Arts et tout, vont venir fréquenter aussi cette rencontre-là, puis découvrir à travers ça des auteurs qu'ils n'auraient pas découvert autrement.
Oui, puis en fait, puis qui sont fans du peintre aussi. Dans le fond, je veux dire, si Marc Tessier et Cyrus se sont intéressés à Dallaire dans leur bande dessinée, c'est parce qu'ils adoraient l'œuvre de ce peintre-là, parce qu'ils avaient envie de transmettre l'œuvre de ce peintre-là. Donc, ça crée un langage commun avec le public qui va venir parce qu'il y a Dallaire dans le titre, parce que l'œuvre porte sur Dallaire qui va les amener vers la BD, autant que les gens qui viennent là parce que c'est Cyrus, parce que c'est Marc Tessier, parce que c'est une excellente BD, bien, ils vont peut-être avoir envie justement de profiter de l'ouverture vers l'histoire de l'art. Puis c'est à travers des ouvrages comme ça, dans le fond, qu'on crée des dialogues entre les pratiques.
Oui, puis je dirais, c'est un peu la même chose avec la Maison de la littérature où il y a des activités de bande dessinée à l'occasion à la Maison de la littérature, dans le cadre des entretiens comme on va faire là, parce qu'il y a eu par exemple Valérie Boivin qui a eu la rencontre pour Une ville, un livre, je pense le week-end dernier, mais on espère que via le réseau de la Maison de la littérature, on aille rejoindre des amateurs de littérature, puis qui vont avoir la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se trame, surtout avec des auteurs, par exemple, comme Michel Rabagliati, qui a déjà son public un peu conquis. J'espère qu'on va réussir à aller chercher des gens qui le connaissent moins pour le découvrir à cette occasion-là. Puis une auteure comme Julie Doucet a la même caractéristique. Je veux dire, dans le milieu de la bande dessinée, ça reste quelqu'un qui est relativement connu, qui est admiré par plusieurs. Mais du grand public, je pense que le fait qu'elle ait gagné le Grand Prix à Angoulême, ça a été une surprise totale de savoir qui était cet auteur-là. T'sais. Donc, de pouvoir, sur un public qui est plus porté vers les éléments littéraires, de les attirer pour voir une rencontre comme celle de Julie Doucet, ça peut être très intéressant, là.
Oui, puis en fait, comme tu le dis, le prix, en fait, l'année du Québec, j'ai l'impression, même à Angoulême, là, je veux dire, avec le prix de Mégantic, avec le Grand Prix donné à Julie Doucet, avec une belle présence québécoise sur place, mais ça a donné un bel élan. J'ai l'impression de beaucoup parler de BD, on a beaucoup parlé de l'excellence de la BD québécoise. Et effectivement, Doucet qui a été mis de l'avant à juste titre dans ça. Donc, subitement, vous passez d'une activité qui avait été mise en place, qui était nécessaire pour valoriser cette œuvre-là, pour valoriser l'anthologie Maxiplot dont tu as parlé. Mais en parallèle, là, subitement, la curiosité des gens, j'espère, a été animée parce que, comme tu dis, on a peu d'occasions d'aller à la rencontre de Julie Doucet. Elle s'est quand même faite discrète au fil des années. Il y a quelques entrevues qui ont été faites, mais des longues entrevues, il n'y en a pas des masses. C'est des longues entrevues en présentiel, il n'y en a pas des tonnes non plus. Alors, il faut avoir conscience qu'on a presque un privilège. J'ai l'impression de pouvoir profiter de cette rencontre-là, de pouvoir profiter de cette occasion-là, puis de profiter du festival pour aller rencontrer cet auteur d'exception-là.
Oui, puis je tiens à préciser que la rencontre était prévue avant qu'elle gagne le prix, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait à la remorque de ça. Puis c'est plutôt on lui a donné l'an dernier un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière. On voulait faire quelque chose avec elle à la sortie de son livre, donc ça a bien à donner. Mais oui, c'est ce qu'on veut, c'est éveiller la curiosité des gens pour la bande dessinée. Puis ce genre d'initiative-là est là pour ça.
Oui, puis pour l'histoire de la bande dessinée, parce que c'est pour moi de jaser de Julie Doucet, d'aller plonger dans l'univers de Julie Doucet, c'est aussi après ça avoir envie de plonger un peu dans la BD underground des années 80-90, d'ouvrir peut-être vers d'autres auteurs qui ont influencé Julie, d'ouvrir vers d'autres auteurs qui ont été influencés par Julie aussi. Donc, c'est encore là, on parlait de porte d'entrée pour Dallaire, mais c'est Julie Doucet aussi, c'est une fort belle porte d'entrée pour découvrir une période, pour découvrir un réseau d'influences croisées, puis des gens qui ont été influencés par cette œuvre-là par la suite.
Oui, puis je peux dire, parce qu'elle a fait une rencontre à Angoulême suite à son prix. Puis, bien qu'elle soit quelqu'un de très discrète, je pense qu'en entrevue, elle a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, ça va permettre effectivement, comme tu dis, à un public de découvrir un pan de l'histoire de la BD québécoise qui, encore aujourd'hui, résonne. La preuve est que dans les grands entretiens, des auteurs comme Marc Tessier et Siris, qui font partie de la même époque, fin 80, début 90, scène underground montréalaise, et qui encore aujourd'hui publient des albums, puis réussissent à être même à la limite beaucoup plus de l'avant avec ce qu'ils font maintenant que ce qu'ils ont fait dans les années 90, ce qui est super.
Puis tu parlais tantôt en fait d'ouvrages sur Paul de Michel Giguère et Michel Rabagliati. Ben encore là, dans le fond, c'est, puis j'ai l'impression, c'est pour ça que je me disais, ben, comme direction artistique, il y a une belle sélection, un beau choix, une belle réflexion sur les quatre ouvrages qu'on choisit de mettre dans les grands entretiens. Puis je pense que tu l'as dit, Thomas-Louis Côté, c'est des portes d'entrée. Et le Paul dont il est question, c'est un ouvrage quand même massif, 400 pages. Mais au bout du compte, pour ceux du milieu de la BD qui connaissent Michel Giguère, qui savent ses talents de pédagogue et sa manière d'amener subtilement des données, de l'information qui vont bonifier un peu le regard qu'on porte sur la bande dessinée de manière générale, bien, dans le fond, lui s'est assis et a exploré, dans le fond, l'œuvre de Rabagliati. Et au bout du compte, dans le fond, il nous explique à travers Rabagliati la bande dessinée, les mécanismes de la BD, ce qui fait que la BD marche ou pas, à travers un contexte artistique qui est celui de l'auteur, mais à travers tout ça, il y a les mécanismes qui sont explorés. Et donc, ça devient aussi, c'est, je dirais, des ouvrages comme ça. Je ne sais pas à quel point, j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas eu des masses, voire c'est le premier du genre au Québec là, depuis un bout
Des
de temps.
analyses par rapport au corpus d'un auteur québécois, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a certainement eu des thèses, il y a eu différentes choses, mais dans le cadre d'un livre qui est diffusé à grande échelle, si on veut, par la Pastèque, un très bel ouvrage, comme tu le dis, je pense que ça va être pour beaucoup de public. La première fois qu'ils vont voir un ouvrage d'analyse sur la bande dessinée si poussé, puis très, très bien fait, effectivement, par Michel Giguère, puis de passer par une œuvre comme celle de Michel Rabagliati qui a trouvé écho auprès du public, qui est un chouchou, si on veut, du public au niveau de la bande dessinée, c'est sûr que ça éveille l'intérêt.
Oui, mais en fait, c'est la question. C'est qu'est-ce qui fait que quand je lis Paul, ça marche, j'aime ça, j'embarque. Et Giguère est capable, dans le fond, de nous expliquer pourquoi. Et après ça, bien, pour moi, c'est, je veux dire, c'est le genre de rencontre, autant que le genre de livre, où, comme lecteur, tu n'as pas le choix d'évoluer et de progresser. C'est comme quand on lit éventuellement Scott McCloud ou d'autres ouvrages comme ça, d'entrée vers la structure de la bande dessinée, vers ce qui fait que c'est un médium qui est riche en procédés, en manière d'aborder, dans le fond, de présenter les choses. Alors, il y a un intérêt, ça permet, dans le fond, j'imagine aussi au festival, d'amener des discussions vers un peu la méthode, les approches, la mise en scène, un peu comme les classes de maître aussi. Je pense que Juan Diaz Canales va en offrir une aussi dans le cadre du festival. Donc, c'est des occasions d'aller au-delà
Découvrir les
de
coulisses de la bande
l'analyse
dessinée.
littéraire, plus sur thématique, si on peut dire, d'aller vers les procédés, les processus, les manières d'aborder les choses.
Effectivement, c'est montrer les coulisses de la bande dessinée, puis Il y a un intérêt marqué pour la bande dessinée actuellement. Il y a une hausse des ventes et tout ça. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la bande dessinée. Il y a encore énormément de personnes qui comprennent pas pourquoi il y a un intérêt pour la bande dessinée, on va dire. Il y a des gens qu'on réussira pas à convaincre. Mais c'est certain que d'explorer. Puis je pense que n'importe quelle rencontre qu'on fait au niveau des rencontres d'auteurs, que ce soit les grands entretiens ou les rencontres plus courtes, permettent justement d'aller gratter en dessous de pourquoi les auteurs ont fait les ouvrages qu'ils ont faits ou les inspirations, les dessous, les techniques et tout pour montrer que le travail qu'il y a derrière ça. Puis tu parlais de la classe de maître, effectivement, c'est un des éléments que Québec BD tente de faire, c'est de stimuler la relève. Donc, en offrant une occasion de rencontre avec un auteur comme Pondiane Canales, qui a fait quand même une des séries marquantes au niveau européen là, comme scénariste. Puis il faut savoir que c'est même lui, au départ, qui avait dessiné les premières versions aussi de Black Sabbath. Pas pour la publication, mais il avait créé son personnage. Donc, de permettre une rencontre avec les auteurs. Pour découvrir lui, sa méthode, c'est quoi? Puis l'idée n'est pas d'enseigner une méthode, mais d'amener une discussion sur les types de fonctionnement qu'il peut y avoir pour créer de la bande dessinée, puis créer des belles histoires, des bonnes histoires, parce que je pense que c'est pas toujours des belles histoires, mais des bonnes histoires. Et je pense que d'offrir la possibilité d'une classe de maître, c'est quelqu'un qui veut vraiment se perfectionner ou voir confronter ses pratiques avec celles des autres, de participer aux grands entretiens, aux rencontres ou une classe de maître, ça va leur permettre de ressortir avec un bagage très intéressant.
On parlait de classe de maître, mais il y a aussi d'autres façons d'aborder la bande dessinée, d'aborder la création BD. Et entre autres, il y a Julien Dallaire-Charest qui t'a mobilisé aussi, Thomas Louis, pour un atelier de BD, un atelier de création BD.
Bien, on a plusieurs ateliers qui vont être offerts à différents moments, mais effectivement, Julien donc, va offrir un atelier au Moulin des Jésuites, donc à Charlebourg, le samedi avant-midi. Donc, ce sera l'occasion pour le public et surtout la famille. Je dirais que c'est une activité familiale d'avoir les trucs et des éléments là, pour apprendre à faire un peu plus de bande dessinée. Si on l'a fait, si je regarde, on a lancé, ou la ville a plutôt lancé, mais c'est une trousse que nous, on a conçue, qui a été distribuée en début de semaine dans les différentes bibliothèques de la ville. Les échos que j'en ai, c'est que ça a trouvé preneur très, très, très rapidement. Il y a un intérêt chez les jeunes et moins jeunes d'apprendre les fonctionnements de la bande dessinée pour pouvoir créer eux-mêmes leurs choses. Donc, des ateliers comme celui de Julien, où on a aussi l'atelier La case d'après avec Sarah Arnal au Musée des Beaux-Arts le dimanche. C'est des occasions de prendre le temps de travailler avec un auteur pour avoir des trucs puis s'améliorer. On a aussi un autre atelier qui est Croquer Pompéi, donc le samedi après-midi au Musée de la Civilisation. Donc, ça, c'est une occasion de faire du dessin d'observation puis d'amener des éléments narratifs dans son dessin. Ça veut dire de voir comment, à partir d'un artefact qu'on dessine, de voir à lui donner une vie, une histoire et tout. Donc ça va être un bel atelier. Et l'atelier de Sarah, qui est le dimanche, donc c'est la case d'après, qui est un exercice qu'on fait déjà avec des auteurs de bande dessinée depuis plusieurs années au Musée des Beaux-Arts, c'est-à-dire de prendre une œuvre comme si c'était une case et de créer l'œuvre, la case qui suivrait. Donc, un complément à l'œuvre pour lui donner une narrativité. Donc, Sarah va donner deux ateliers, donc un le matin, un en après-midi, pour justement faire le même exercice, mais avec le public. Donc, de travailler sur des œuvres pour essayer de voir comment on peut l'amener à lui donner. À l'inclure dans un processus narratif. Donc, c'est ces genres d'ateliers-là. Puis on en a également au Salon du Livre, on en a beaucoup sur semaine qui s'adressent aux jeunes visiteurs qui seront là. Donc, ça reste dans un peu le noyau de ce qu'est Québec BD, c'est de trouver des animations pour le public, là.
Oui, puis en fait, trouver des façons d'aborder ou de faire comprendre ou d'intéresser à la structure de la BD, parce que juste avec les trois ateliers, celui de Julien, celui de Sarah, et le troisième d'observation de Pompéi. C'est trois approches, dans le fond, Julien, qui est plus une approche traditionnelle où on va comprendre un peu, explorer, essayer à travers la structure de la BD. Après ça, la case d'après où là, OK, on se met en relation pour comment on part de quelque chose qui est statique ou qui a un premier élément, puis qu'on développe une narrativité à travers ça, puis qu'on amorce, dans le fond, au bout du compte, une histoire. Et avec Pompéi, ben, on part de l'objet pour encore là ramener un peu au narratif. Donc, c'est des façons d'aborder la chose. Et autant tu le mentionnais, en fait, juste, je pense que c'est une tradition au festival depuis des années, l'idée d'avoir des artistes à l'œuvre, juste des fois de les voir travailler, de voir comment l'artiste aborde un dessin, aborde le travail, comment il se prépare, s'organise. Donc, c'est plein d'occasions comme ça. Et tu parlais en première moitié, Thomas Louis Côté, d'aller dans les coulisses, d'aller dans l'envers du décor. Ben, on peut le faire en écoutant autant qu'on peut le faire en faisant, autant qu'on peut le faire en regardant, dans le
Ouais.
fond.
Je pense c'est que de donner l'occasion au public de poser des questions aussi. Puis des fois, dans un contexte où c'est devant un groupe, s'il y a un auteur sur scène et tout ça, c'est plus difficile. Mais dans un contexte, par exemple, comme la case d'après, où les gens sont dans les salles, travaillent tranquillement, le monde peut aller vers eux, poser des questions et d'avoir un échange qui se fait autrement qu'autour de la dédicace aussi, là. Donc, c'est pour ça, je pense que ces types d'activités-là sont très bénéfiques pour le public.
Et j'ai l'impression, si on prend un peu de recul, du côté de Québec BD, c'est quand même une expérience, tu disais, c'est dans la mission, c'est dans le mandat de l'organisme. Et depuis des années, on voit, ne serait-ce entre autres, là, avec la BDTech mobile que vous déplacez dans les parcs, je pense qu'elle était au Grand Marché pendant un bout de temps aussi, le reste. Donc, il y a des outils que vous développez, il y a la trousse dont tu as parlé. Donc, Québec BD se développe aussi une expertise en vulgarisation, dans le fond, de la bande dessinée pour l'amener auprès de différents publics dans différents contextes. Et nécessairement, j'imagine que ce qui est proposé au festival va aussi puiser dans ces expériences-là, puis dans ces explorations-là que vous avez faites au fil de l'année, là, parce que Québec BD, c'est pas que le festival.
Mais je pense qu'on le fait de travailler avec des auteurs, parce que c'est essentiellement des auteurs de Québec avec qui on travaille pour la BDTech mobile notamment, a permis de tester beaucoup de concepts, d'offrir aux auteurs l'occasion de tester des concepts d'animation et tout, qui bénéficient à l'événement, parce que là, on peut créer des choses puis avec les gens avec qui on connaît, puis on connaît leurs forces, on connaît aussi ce qu'ils peuvent communiquer, puis les types de publics qu'ils peuvent rejoindre et tout. Donc, oui, tout au long de l'année, de faire des initiatives comme ça nous nourrit pour l'événement. Puis je pense aussi que ça donne une occasion aux auteurs qui collaborent avec nous d'explorer, puis de s'amuser à tenter des choses, là. Donc, pour ça, pour nous, c'est très intéressant en bout de ligne, puis tout au long de l'année, là.
Oui, d'avoir quelque chose en fait où l'écosystème est présent, est actif au-delà du 10 jours par année, si on peut dire. Puis en même temps, pour profiter aussi, parce que j'imagine que ça s'alimente mutuellement, de profiter des contacts, des éléments que vous développez autour du festival, puis après ça, de les étendre à l'année, puis éventuellement d'ouvrir. Je pense que je ne compte plus les projets de murales que vous avez faits dans les années, des projets d'art public, d'exposition. Le Québec BD n'a jamais été aussi présent à travers la ville de Québec. Et ce faisant, mais dans le fond, Québec devient de plus en plus une ville BD, au bout du compte.
C'est assez paradoxal parce que l'année 2021, puis début 2022, ça a probablement été la période la plus occupée que l'organisme a connue à vie par le nombre de projets, l'ampleur des projets et tout. Alors qu'en 2021, on n'a pas eu nécessairement un événement présentiel, on a eu l'événement numérique en ligne, mais reste que je dirais qu'habituellement pour le festival, on met beaucoup, beaucoup d'énergie sur le festival, puis après ça, il y a un petit creux avant de reprendre les activités plus tard au courant de l'été ou à l'automne, alors que là, ça a été un feu roulant depuis plusieurs mois où il y a toujours eu des projets, il y a toujours eu quelque chose. Il y en a toujours des nouveaux. Là, il y a le pavillon de la BD dont on pourra peut-être parler un peu plus tard, qui arrive, qui va nous occuper jusqu'à la fin août. Il y a l'été qu'on est en train de préparer. Il y a d'autres projets qu'on a soumis. Donc, tu sais, ça n'arrête pas. Effectivement, donc, Québec BD est de plus en plus actif. Et que le festival, pour nous, c'est un point focal annuel qui est incontournable. Ça nous permet de tenter des choses, de tester des choses qui vont nous servir à d'autres moments de l'année aussi.
Et en fait, tu ouvres la porte vers le pavillon de la BD. Je pense que je n'ai pas le choix de l'ouvrir un peu plus. On a vu passer, entre autres, aussi sur les réseaux de Québec BD, des photos d'espace 400e. On peut faire 1 plus 1 égale 2. Donc, le Québec BD va avoir, au-delà du festival, un espace d'exposition éphémère, dans le fond.
Éphémère, effectivement. Donc, la Ville de Québec a la volonté depuis un certain temps d'animer l'espace 400e avec des projets artistiques. Donc, on a vu Zoom Photo, il y a eu le Mois Multi, il y a eu la Foire en Art Actuel dernièrement. Et dans le fond, ils nous ont confié l'occupation du lieu d'avril à août pour présenter des expositions. Donc, on a fait un centre d'exposition éphémère où il y aura plusieurs expositions qui vont être présentées, donc avec deux programmations. C'est-à-dire une programmation qui va débuter le 9 avril lors de l'inauguration, puis qui va se poursuivre jusqu'au 12 juin, puis des expositions qui vont arriver par la suite du 15 juin jusqu'au 21 août. Donc, pour nous, c'est un important projet. T'sais, je parlais des fois que le festival, c'était peut-être moins gros cette année, mais je vous dirais qu'avec cet élément-là, ça, c'est un très gros morceau pour nous. Puis on a... quatre expositions pour débuter. Il y en aura une cinquième qui va s'ajouter dans les semaines suivantes. Donc, on parle d'expositions permanentes comme les coulisses de l'animation. Les coulisses de l'animation, c'est une exposition sur les archives du studio Belle Vision. Belle Vision qui a fait les films de La Cour requin de Tintin, Astérix, Les 12 travaux d'Astérix, Daisy Town de Lucky Luke, donc des films fin des années 60, début des années 70. Puis, on a l'occasion de présenter une exposition sur les dessous de la production de ces dessins animés-là. Donc, des dessins animés qui ont assurément un lien avec la bande dessinée. Les gens vont retrouver Tintin, Lucky Luke, Astérix, mais qui vont aussi présenter les méthodes traditionnelles de faire du dessin animé, donc avec des dessins peints sur des cellulos en des acétates, dans le fond, là. Et tout, fait qu'une très belle exposition avec beaucoup, beaucoup d'artefacts et d'originaux de cette époque-là, fait que ça va être unique. On a aussi une exposition, donc ça, c'est une exposition qui peut être présentée jusqu'à la fin août, comme Drawing Dante, qui est une exposition qui nous vient d'Italie et qui a invité des auteurs italiens à revisiter la Divine Comédie de Dante, qui fêtait ses 700 ans. Donc, une exposition qui va présenter des œuvres, illustrations et bandes dessinées d'une multitude d'auteurs. Puis, on a, en termes d'exposition permanente, aussi l'exposition René Lévesque. Donc, une exposition autour du livre René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Donc, je pense que ce serait le 100e anniversaire, je crois, cette année de René Lévesque. Pour nous, c'est intéressant de présenter cette exposition-là. Puis surtout que, comme je disais, c'est un ouvrage qui présente de façon très intéressante un pan assez important de l'histoire du Québec, l'histoire politique du Québec, là, avec le passage de René Lévesque et son parcours. Donc, et qui par le fait même, comme c'est un ouvrage collectif, présente beaucoup d'auteurs québécois qui ont collaboré. Fait que pour nous, c'est une belle vitrine, si on veut, pour montrer un peu la diversité de la bande dessinée québécoise. Puis, on aura aussi une expo temporaire donc, qui va être présentée jusqu'au 12 juin, qui se nomme Petit Poilu, donc sur la série de Dupuis, donc immersion dans le monde de Petit Poilu, donc quelque chose de plus familial. Puis, aussi, on avait la volonté à travers ce lieu-là de ne pas nécessairement uniquement en faire un lieu de visite où les gens vont voir des expositions, mais on voulait que les gens puissent prendre un temps pour lire. Ce qu'on ne fait jamais, là, je trouve, dans des centres d'exposition. Puis la bande dessinée étant un médium de lecture, pour moi, c'est important de le faire. Fait qu'il y aura différents endroits dans le lieu, des points de lecture où les gens pourront s'asseoir, lire et prendre une bande dessinée pour la lire. Donc,
que ce soit un espace de vie, pas juste un espace d'observation. Donc, qu'on passe un moment autour des expos, qu'on puisse prendre une pause, qu'on s'assoie, qu'on lise, qu'on aille voir une autre expo. Donc, ce qui fait que même en fait, d'un point de vue familial, dans le fond, ça devient une expérience qui est diablement plus intéressante parce que on va au-delà de simplement l'observation comme telle, il y a d'autres possibilités.
Et le fait que des expositions comme Dante ou René Lévesque qui s'adressent plus à un public adulte, une famille pourrait arriver puis laisser les enfants lire dans le coin lecture pendant qu'eux prennent le temps de visiter l'exposition qui est à proximité. Donc, il y avait ça aussi en tête. Donc, c'est un lieu qui va s'animer puis qui va vivre avec l'arrivée de nouvelles expos et tout jusqu'au 21 août. Fait qu'on aura
Et donc, qui
sûrement
permet
l'occasion
en
d'en
fait puis de ramener, on le disait, dans le fond, de faire vivre Québec BD à l'année, d'avoir quelque chose qui, au bout du compte, est peut-être plus durable en termes d'impact aussi que juste, entre guillemets, parce que c'est énormément de travail, mais le sprint de 10 jours, le sprint de 4 jours du festival et le reste, mais là, on l'étend. Donc, au fil des dernières éditions, on avait déjà commencé un peu à s'étendre au fil du mois d'avril. Je me rappelle la première édition virtuelle qui s'était étendue pratiquement jusqu'en juin aussi. Ouais. Donc, il y a une volonté de toute façon de dépasser, où j'ai l'impression presque que tu te sentais un peu encarcané aussi avec juste ce sprint-là, et qu'à un moment donné, c'est devenu un peu incontournable de dire bon, OK, on l'étend parce qu'il y a des délégations, parce qu'il y a une présence à l'international, parce qu'il y a d'autres opportunités, parce que la BD ne doit pas être mise de l'avant seulement 4, 5, 10 jours par année.
Non, puis je veux dire, c'est un peu. L'organisme s'appelle maintenant Québec BD, c'est plus le Festival Québec BD, parce que justement, on a voulu sortir de cette idée-là d'avoir uniquement l'événement comme activité principale. Là, je dirais que l'année, on a eu plus de projets dans l'année. Si on regarde la masse de projets qu'on a eu par rapport au festival, le festival est devenu un des éléments de la programmation et pas nécessairement le point focal cette année. Je ne dis pas que ce sera comme ça pour toutes les années, mais cette année, ça a été vraiment ça. Et puis tu parles d'un sprint final, d'un sprint de 4 jours ou 10 jours. Le sprint est beaucoup plus long. C'est la vue de la ligne d'arrivée qui est peut-être sur 4 jours. Là.
Vous autres, ça fait une couple de mois que vous êtes en sprint.
J'ai des bons mollets.
Et surtout, subitement, avec le pavillon de la BD aussi, je veux dire, ça rajoute, pour vous, dans le fond, pour le sprint festival se finit au 10 avril, mais comme tu disais, si on lance l'espace au 9, que lui est actif jusqu'en août, il va y avoir d'autres éléments qui vont s'ajouter aussi au cours de ça. Donc, j'imagine que ça change un peu le rythme de travail pour le directeur général, où tu te retrouves, dans le fond, maître d'œuvre au départ. Je pense que ça fait une dizaine d'années et plus que tu es là, mais tu es arrivé au départ avec le festival, puis là, tu as développé l'organisme bien au-delà de ça. Et ce qui fait que ton rythme de travail aussi a dû changer du tout au tout.
Du tout au tout. Et je te dirais que comme là, présentement, tu sais, le festival est à nos portes, mais il faut que je prépare des choses pour l'été à venir. Il faut que je prépare des choses pour l'espace 400e et tout. Fait que c'est une autre dynamique de planification. Mais,
et si les gens veulent, ça se demande, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça a une portée? Je pense que si on regarde juste les prix littéraires pour lesquels le festival et toi, Thomas-Louis Côté, avaient été en nomination, qu'on pense à la Ville de Québec, rayonnement international et autres, on peut mentionner aussi que tu as été nommé récemment chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres du côté de France. En fait, Angoulême, c'est la ministre de la Culture elle-même qui t'a remis cette médaille-là. Ça montre que le travail que tu fais, le travail qu'on décrit, l'ampleur que pris et que prend progressivement Québec BD, ça a une réelle portée pour le rayonnement de la bande dessinée québécoise de façon locale, de façon provinciale et à l'échelle internationale aussi.
Oui, mais je te dirais, tu sais, qu'il y a une portion de ce qu'on fait qui est visible. Il y a des choses qui ne l'est pas non plus. Fait qu'on a un travail de coulisses quand même qui est important. C'est moi et mes collaborateurs, là. Mais pour différentes choses, tu sais, je veux dire, c'est pas... T'sais, par exemple, je sais pas moi, l'exposition 25 moments importants de la BD québécoise est présentée présentement en Tunisie, va être présentée aux Pays-Bas. Mais c'est des éléments qui ici sont moins visibles, mais qui nous aident à faire rayonner la BD québécoise. On a travaillé avec les gens de l'Alliance française à Washington pour la présentation d'activités autour de la bande dessinée pendant le mois de la francophonie en mars. Ce n'est pas des choses qui ont des portées locales, mais c'est des mandats pour lesquels on nous approche et qui permettent de montrer un peu pas l'importance, mais la place qu'on peut prendre dans le paysage québécois pour promouvoir la bande dessinée québécoise, mais pas au Québec, mais à l'extérieur.
Et puis développer les réseaux qui vont vous servir aussi éventuellement dans l'organisation ici, autant qu'ils permettent justement de voir ce qui se fait ailleurs, de participer à ce qui se fait ailleurs. Et tu parles des États-Unis, on pourrait parler de l'Argentine, on pourrait parler de plusieurs pays européens aussi, on pourrait parler du Japon, de la Chine, du Vietnam. Je veux dire, il y a une présence qui s'accroît année après année aussi. On sent que le réseau de rayonnement qui est construit par Québec BD s'enrichit dans le fond de nouvelles collaborations aussi.
Oui, on a eu la chance. Le fait que Québec soit devenu ville littéraire de l'UNESCO en 2017, nous a amené aussi à côtoyer un réseau d'autres villes qui s'intéressent à la bande dessinée. Puis je dirais Angoulême, où j'étais récemment, on a eu une rencontre avec d'autres villes littéraires de l'UNESCO qui s'intéressent à la bande dessinée. Puis de ça naît d'autres projets, puis des volontés de projets, puis des volontés d'échange. Donc, c'est sûr que tout ça ensemble amène des belles opportunités, puis une occasion pour nous de contribuer au rayonnement de la bande dessinée québécoise, mais de la ville de Québec aussi à l'étranger.
Et à travers ça, il y a aussi, si on revient un peu sur la programmation du festival, je pense qu'on a mentionné quelques-unes des activités, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a aussi qui sont issues de partenariats que vous faites avec des entités locales, je pense entre autres avec Ailleurs que maintenant, en collaboration avec Entracte. Donc, qui est un bel exemple aussi du fait que les partenariats ne se nouent pas qu'à l'international non plus.
Non, 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 non. Puis il ne faut pas penser ça. Au contraire, je pense que c'est important. T'sais, une des priorités, c'est de justement des collaborations locales, que ce soit avec les auteurs ou les organismes. Pour nous, c'est ce qui fait vivre l'organisme au final. Parce que sur des projets, t'sais, ailleurs que maintenant, c'est un très beau projet qui devait naître en 2020. Et qui voit le jour aujourd'hui. Donc, j'en suis très content. Là. Ça a débuté mercredi dernier. Et cette pièce de théâtre-là est un très bel exercice des gens d'Entracte d'incorporer la bande dessinée dans leur processus créatif. Donc, la bande dessinée fait partie intégrante de ça. Pas nécessairement physique, bien qu'il y a des éléments qui en font partie. C'est plus dans l'idée de la narrativité en lien avec la bande dessinée. Puis, on n'est pas dans le. Ah, ça fait bande dessinée, donc c'est drôle, c'est rigolo. Non, 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 c'est une pièce qui a travaillé avec un auteur, donc qui est Guillaume Demers, et qui pour incorporer des éléments narratifs, puis la construction narrative, si on veut, de bande dessinée. Puis le personnage principal s'intéresse, veut faire la bande dessinée et tout. Fait que c'est un très bel exercice. Puis ça, ben, on était très heureux de s'y associer en 2020. On est très heureux d'y être encore aujourd'hui. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on lance le festival avec la pièce. C'est-à-dire bien que la pièce va avoir commencé déjà le 6 avril, il y a une présentation spéciale pour l'ouverture du festival. Donc, c'est l'occasion de venir la voir. Puis, ça va être suivi d'une discussion avec Julien Poitras, qui est le président d'honneur de la soirée, qui est doyen de la faculté de médecine, mais qui est aussi éditeur pour Moelle Graphique, donc autour de la marginalité.
Et puisqu'on est un peu sur les activités présentielles, je pense qu'on peut faire clin d'œil à celles qu'on n'a pas encore mentionnées. Il me vient en tête, entre autres, le retour d'Impro BD, la remise aussi des prix Bélis Causa le vendredi 9, le vendredi 8 avril, si je ne me trompe pas, au Musée de la Civilisation. Donc, ça, c'est le retour d'une tradition, dans le fond.
Oui, bien, l'impro BD, c'est un immanquable du festival. Puis on a l'occasion avec le Musée de la Civilisation de revenir en présentiel avec une scène, avec des gens et tout. Donc, on présente le Club BD, qui est une nouvelle formule qui est plus collaborative, mais où quatre auteurs et quatre comédiens vont travailler ensemble pour vous offrir une très belle soirée. Puis ce sera précédé par la remise des prix BDS Causa. Et le samedi soir, c'est l'inauguration du pavillon de la BD. Donc, il y aura, suite au vernissage, une prestation de musique et dessin avec Bob Bouchard et les auteurs qui sont en résidence à la Maison de la littérature.
Donc, deux rendez-vous présentiels où on retrouve un peu la formule spectacle classique qui viennent s'ajouter aux entretiens dont on a parlé en début de parcours. Et à ça, il y a aussi, j'ai arrêté de les compter au fil des années, là, mais il y a la petite pléthore d'expositions dans des cafés, dans des bibliothèques, dans différents lieux, qui reste un peu incontournable et dans laquelle on va chercher plein, quand même une grosse variété là, de types de propositions d'ailleurs.
Oui, cette année, le festival a fait le pari de miser en partie sur les auteurs de Québec pour les mettre de l'avant. Parce qu'encore là, comme je disais, il y a des auteurs qui ont sorti des albums et on les a moins vus. Il y en a d'autres qu'on a vus quand même beaucoup aussi. Donc, on a décidé de mettre de l'avant Valérie Boivin, qui sera à la bibliothèque Claire-Martin dans Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi Patrick Blanchette avec Aube, qui sera au Collège des Jésuites. Il y a Philippe Girard qui sera à la bibliothèque Roger Lemelin à Cap-Rouge. Et donc, c'est ça. Fait qu'on a quand même 7 ou 8 bibliothèques qui vont recevoir des expositions très variées. Puis quatre des brûleries Donc, Brûlerie Saint-Roch, Brûlerie Saint-Jean et celle de Limoilou. Donc, des expositions comme Fred Aun, qui a gagné le prix Jacques Urtubise l'an dernier, qui sera à la Brûlerie Saint-Roch. On a aussi fait une exposition des couvertures de planches, qui est un magazine dédié à la BD québécoise, qui a des très belles couvertures. Donc, ça, c'est à la Brûlerie Saint-Jean. Et on a une exposition aussi, Immigréalité, qui est un projet qui a été fait par Nick Michaud, qui est un auteur de la vallée de la Matapédia. Donc, il a fait un projet de bande dessinée avec la région là-bas sur les réalités de l'immigration en Matapédia. Fait qu'un projet en BD puis qu'on présente au Moulin des Jésuites.
Et à ça aussi, on peut mentionner deux autres expos, une dédiée à la nouvelle BD latino-américaine. Tu as une expo aussi qui est dédiée au renouveau de la bande dessinée jeunesse. Tu as une expo rétrospective sur Boule et Bill. Donc, il y a aussi d'autres où le BD et la manga. Donc, il y a des expositions aussi plus thématiques qui sont offertes.
Guillaume Perrault aussi qui a fait notre affiche donc à Polémée Paiement. L'idée, c'est d'avoir une variété. Puis, on se fait proposer souvent des expositions par des partenaires internationaux. Donc, le renouveau, la nouvelle bande dessinée française, entre autres, en est une, qu'on présente avec le Consulat général de France à Québec. Panorama, qui est l'exposition sur la nouvelle BD sud-américaine. Ça, c'est une exposition qui a été créée par la Vitrina de Valonia, qui est un organisme cubain, donc avec lequel on collabore. Fait que pour nous, c'est intéressant de pouvoir avoir des opportunités de diffusion dans différents contextes. Puis, on profite vraiment du réseau des bibliothèques pour le faire pendant le festival, parce que ça permet de faire des expositions qui durent un bon mois et qui permettent après ça d'avoir une bonne diffusion pour ces œuvres-là.
Et en plus des activités ludiques aussi, je fais un mini clin d'œil juste pour le mentionner, mais on parlait de la Maison de littérature, il y a aussi un quiz BD le 7 avril. Donc, il y a différents types d'activités, tout ça. Et la programmation, finalement, quand on prend le temps de regarder, on disait en début d'émission, mais ça reste une plus petite programmation à cause des contraintes sanitaires et de reste. Mais finalement, je veux dire, on parle quand même de plus d'une centaine d'auteurs, on parle quand même de plusieurs dizaines d'expositions, on parle quand même de plusieurs soirées d'activités, de rencontres, de spectacles, d'entretiens. D'un pavillon de la BD qui s'en vient. Je veux dire, ça fait quand même. Ouais, c'est une petite programmation, mais j'ai envie de faire des gros guillemets à côté du mot petit. Là.
Oui, mais en même temps, c'est le propre d'un festival d'avoir une foison de choses à proposer. Puis je pense qu'on le fait quand même bien cette année.
Alors, en fait, j'invite les gens à aller faire un tour sur québecbd.com. On a parlé de certains éléments. Je suis persuadé que vous n'avez pas eu le temps de les noter. Allez faire un tour sur québecbd.com. Vous allez voir ce qu'ils peuvent faire pour la période du 6 au 10 avril. Mais on l'a dit, il y a d'autres activités Québec BD qui poursuivent par après. Alors, c'est le genre de page que ça vaut la peine de mettre dans ses favoris ou minimalement de les suivre sur Facebook et Instagram. Et évidemment, on espère vous recroiser au festival. J'aurai le plaisir d'animer quelques rencontres, quelques entretiens dont on a parlé de mon côté avec un vif, vif plaisir. Et Thomas-Louis Côté, de te retrouver toi et de retrouver les auteurs et le public à cette occasion-là, je pense que ça va être extrêmement riche. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Donc, je rappelle, 6 au 10 avril, québecbd.com. Et sinon, si vous voulez nous suivre, nous aussi, c'est lavieenbd.com. On est également sur Facebook et sur Instagram. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine.